Ça va pas faire un jingle, ça.
Bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Bonjour la régie. Ça va la régie? Tout va bien? On entend bien? Ça fonctionne bien? Parfait. Alors aujourd'hui, article 25 du 17 juillet 2024. Dieu que le temps passe vite. Alors aujourd'hui, une petite entorse au programme. Notre émission s'intitule Georges Abdallah, a muré depuis 35 ans dans les geôles de l'histoire et des raisons d'État françaises. Voilà. Notre émission sera basée là-dessus et sans plus tarder, je vais passer la parole soit à Charles, soit à la personne qui est en face de moi dont j'oublie le prénom. Voilà. Allez, je laisse la parole aux deux invités. Charles, bonjour.
Bonjour. Écoute, d'abord, juste un petit mot de correction. Ça fait malheureusement pas 35 ans, ça fait 40 ans que Georges est enfermé.
D'accord. Donc, une erreur sur l'historique, là.
Voilà, ça fait 40 ans. Et en fait, moi, j'avais, comme tous les Français de l'époque, appris l'arrestation de Georges en 1984 et sa condamnation. Alors, ça a été un procès à épisodes, je ne vais pas revenir dans les détails, mais parce que ce n'est pas le juridique qui est important. En tout cas, quand il a été condamné, à ce moment-là, à gauche, notamment le Parti communiste français avait dit que c'était pas normal, que c'était un scandale, qu'il fallait le libérer, qu'il n'y avait aucune preuve contre lui, etc. Et bon, et puis cette affaire est passée dans l'oubli. La gauche a continué son chemin. Et moi, j'avoue que à l'orée des années 2000, je pensais qu'il avait été soit expulsé vers le Liban. Je pense que c'était ça la solution la plus probable. Et que donc, il n'était plus en prison. Et puis, par une petite association qui existait sur et qui existe toujours, qui s'appelle donc Comité de Libération pour Georges Abdallah, j'ai appris donc aux alentours des années 2000 qu'il était toujours en prison, alors qu'il n'y a jamais eu une seule preuve retenue contre lui et qu'il n'a pas pu commettre les crimes qui lui sont reprochés, puisqu'au moment où ils se sont déroulés, il était en prison. Pour faux papiers, ça, ce qui est vrai, il avait des faux papiers, puisqu'à l'époque, il faisait partie du FPLP, le Front de Libération de la Palestine, et il avait de faux papiers algériens, donc il avait été arrêté pour ça au départ, ce qui aurait dû durer 15 jours, et qui durait déjà depuis 20 ans. Et donc, dès que notre site de Rouge Vif à l'époque, Rouge Midi, s'est ouvert, dès 2005, on a commencé à faire des articles sur Georges, et puis donc à lui demander d'être notre président d'honneur, ce qu'il a accepté. Puis après, quand on est devenu une fédération nationale, ANC, il a aussi accepté d'être notre président d'honneur. Et donc ça fait 40 ans qu'on se bat pour sa libération, qui est vraiment un symbole de la force du lobby sioniste en France et de la dévotion des gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de droite, enfin, ou dit de gauche, il n'y en a pas un qui a dérogé à cette position. Alors, il aurait normalement dû être libérable depuis 1999, puisque avec les remises de peine, c'était ça qui devait passer. Donc sa première demande de libération, elle était faite en 1999, elle lui a été refusée. Sa peine à laquelle il a été condamné a expiré en 2014. Là, il devait normalement, comme tout prisonnier qui a fait sa peine, être libéré. Et au moment d'être libéré, il y a le premier ministre de l'époque, Manuel Valls, celui qui après est allé se présenter sous l'étiquette facho en Espagne, donc qui à l'époque était soi-disant socialiste, qui a commué, qui a empêché sa libération par un arrêt du Premier ministre. Et donc, en toute illégalité, depuis 2014, Georges est maintenu en prison, en rétention administrative, un peu comme ça se passe en Israël d'ailleurs, pour des milliers de Palestiniens, à la différence qu'en Israël, on dit que c'est tous les 6 mois que ça peut être prorogé. Là, lui, il n'y a aucun délai. Depuis 1999, il a fait 9 demandes de libération provisoire qui ont toutes été refusées. Il avait même décidé, il avait dit, oh, je ne ferai plus de demande de libération, ce n'est pas possible. Et puis là, son avocat l'a convaincu d'en faire une 10e. Et là, donc, elle est toujours en instruction. Et là, et on attend, normalement, ça devait être rendu en mai-juin. On attend la décision de cette commission de libération, là, pour qu'il doit se prononcer. Parce qu'en fait, lui, tout ce qu'il demande, c'est être libéré et être expulsé vers le Liban, qui est son pays d'origine. Et là, au moment où je vous parle, ben, on n'a pas de nouvelles. Alors, ce qui s'est passé autour de lui, comment a-t-il pu rester autant de temps en prison ? D'une part, comme je l'ai dit, il y a un lobby sioniste. Et puis d'autre part, il faut bien le dire, il y a eu des timidités, des frilosités, voire des atermoiements de la gauche qui n'ont pas suivi et qui ne sont pas emparés du dossier. Il faut savoir que toutes les années, à l'anniversaire, autour de la date d'anniversaire du 24 octobre 1984, au jour de son arrestation, il y a une manif nationale à Lannemezan. On n'y a jamais vu les grands partis de gauche et les grands syndicats être présents. Bien sûr, il y a des syndicalistes, il y a des militants du PCF, de la France Insoumise, du NPA, et puis il y a aussi des militants de la CGT, mais c'est des militants du coin, et c'est des militants qui viennent isolément, mais il n'y a pas d'appel national, ni des organisations dont je viens de parler, à ces manifs pour sa libération. J'en veux pour preuve qu'il y a eu, à l'initiative d'une députée du coin, de la députée de Lannemezan, là où il est enfermé, et sur proposition, on va dire même pression du comité de libération du coin, il y a eu un appel des députés pour sa libération. Cet appel il a été signé par 19 députés. 19 sur 577. Et à l'époque, sur 19, ça faisait sur 150 députés de la soi-disant gauche, quoi. Donc, et on n'arrive pas à ce que les grands dirigeants, je ne sais pas si vous dire ce mot-là, les premiers dirigeants des organisations s'engagent concrètement pour la libération de Georges. Et donc, profitant de cette mollesse de ce qui devrait représenter le progrès de ce pays, ben, les gouvernements se succèdent et pas un ne libère Georges, à croire qu'ils veulent le faire croupir en prison jusqu'à sa mort. Donc ce combat, ben, on se dit qu'évidemment, depuis le 7 octobre, il prend un relief particulier. Tous les dimanches à Marseille, il y a une manifestation pour le soutien à la Palestine et pour le cessez-le-feu. Ça a été une occasion pour nous d'expliquer et de faire connaître la situation de Georges, y compris ça a été la possibilité pour nous de lire des lettres qu'il nous a envoyées. Et donc aujourd'hui, dans cette adversité, on peut dire qu'au moins sur Marseille, mais pas que sur Marseille, au moins sur Marseille, en tout cas, la situation de Georges est de plus en plus connue. Et le dimanche dernier, d'ailleurs, il y avait une initiative autour de sa banderole, avec les manifestants qui étaient là, qui sont là tous les dimanches à 15h à la Porte d'Aix. Cette situation de Georges que certains ne connaissaient pas, elle prend de l'ampleur dans l'opinion. Elle prend de l'ampleur parce qu'il y a des associations de terrain qui s'en préoccupent. Il y a l'ANC, comme je le disais. Il faut connaître aussi que le NPA, alors je ne sais plus lequel parce que maintenant ils sont divisés en plusieurs, mais en tout cas le NPA historique, on va dire, un canal historique, ils y ont, notamment Philippe Poutou a toujours été là dans les manifestations. Mais voilà, c'est un peu les seuls. Et pour le moment, ça ne suffit pas pour faire pression sur le gouvernement pour qu'il soit libéré. Voilà ce que je pourrais dire en introduction.
Est-ce que dans les semaines et, ou les mois prochains, il y aurait possibilité éventuellement de faire monter un autocar là-haut ?
À l'Annemasse ?
Oui.
Mais, alors, en fait, le cas de Georges, il est tellement lié à la Palestine, c'est que tout ce qu'on fait pour la Palestine, ça va dans le sens de la libération de Georges.
Oui, d'accord.
Et nous, là, dans tout l'été, ce qui est prévu, et tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, c'est une manifestation ou un rassemblement tous les dimanches, malgré la période estivale et le fait que beaucoup de gens soient absents, ce qui se comprend, eh bien, nous, on va continuer ces rassemblements et ces manifs tous les dimanches à la Porte d'Aix. Et chaque fois, en tout cas en ce qui concerne l'ANC, on a la banderole de Georges et de plus en plus, on s'aperçoit parmi les gens qui viennent que ben, c'est une question qui est partagée, quoi. On avait sorti des t-shirts à son effigie, ils sont tous partis. On a des petits badges à son effigie, ils partent. Mais voilà, il y a quand même... Il y a eu plusieurs fois, il y a un film qui a été fait sur Georges là, qui s'appelle Fedaïn. Il a été présenté plusieurs fois à Marseille. Il y a un livre de Saïd Bouamama sur l'affaire Georges Ibrahim Abdallah. Nous, je crois qu'on est à court de stock là, parce que ça fait plusieurs fois qu'on a commandé, plusieurs fois qu'on vend tout ce qu'on avait commandé. Donc il y a vraiment une sensibilisation montante sur la question de Georges Abdallah. C'est quand même l'arbitraire le plus complet, quoi. La France, le soi-disant pays des droits de l'homme, il se permet de mettre pendant 40 ans un type en prison sans aucune justification juridique, quoi. Et en contradiction, c'est-à-dire qu'en fait, il est en prison de façon illégale. Ailleurs, on dirait que c'est une dictature, mais en France, c'est une démocratie. Voilà. Donc le gars est en prison au moins depuis 2014, il aurait dû sortir. Ça fait 10 ans qu'il est en prison pour rien, sans avoir ni accès aux pièces de son dossier, ni rien du tout. Qu'est-ce que c'est qui justifie son maintien en prison ? Alors que le Liban, qui au départ était assez... timide sur le cas de Georges, depuis maintenant des années, exige de plus en plus fort la libération de Georges Abdallah, au point que, il n'y a pas très longtemps, la police libanaise a accueilli chez elle un trafiquant de drogue notoire, qui est français, dont la France demande de l'extradition. Et le gouvernement libanais a dit, si vous voulez le trafiquant de drogue, rendez-nous Georges, voilà, pour avoir un donnant-donnant. C'est assez particulier. Je ne sais pas ce que va faire la France. Je ne sais pas si le cher Darmanin va accepter ou si Dupond-Moretti il va accepter. Mais enfin, en attendant, voilà où on en est. Quoi.
D'accord. Bien. Cela lui fait donc quel âge maintenant ?
Il a... Alors, attends que je ne dise pas de conneries. 73 ans, je crois.
Il a 73 ans.
Oui.
D'accord. 73 ans de...
Il est né le 2 avril. Alors, je ne sais pas. Pas l'année exacte, non, je crois que c'est 51, 52, mais puis voilà, peu importe. En tout cas, c'est dans ces eaux-là. Et évidemment, Macron a eu le cynisme de dire il ne faut pas qu'il devienne une gloire nationale chez lui. C'est déjà une gloire nationale, d'ailleurs. Mais il faut voir à quel point le gouvernement il est cynique sur cette affaire. Il y a quelques mois, la ministre de la Justice du Liban est venue en France... Et elle a voulu rencontrer Georges Abdallah. C'est une ministre, quoi. Le gouvernement lui a dit, à condition que vous ne fassiez pas écho de cette visite dans les médias libanais. On est chez les fous, quoi. On veut dire que le gouvernement français, il va dire aux autres pays, vous avez le droit de parler de ça, mais pas de ça, je vous ai interdit. Bon, okay. Évidemment, là, ça n'a pas marché, parce que la ministre en a fait état quand même. Non, mais, vous voyez, comme quoi, on est gouverné par des barjots qui se croient les maîtres du monde, quoi.
Donc... Comme ça, tout d'un coup, plus rien, quoi.
Non, plus rien. Donc voilà, alors, on peut écrire à Georges, on peut aller le voir, on peut faire des demandes de parloir. Moi, évidemment, je peux que vous conseiller de le faire, parce que c'est toujours un moment d'enrichissement, parce que c'est quelqu'un qui a une énorme culture, qui suit l'actualité de très près. Moi, chaque fois que j'ai fait un parloir avec lui... Les parloirs, ça dure 3 heures. Hein. Au bout de 3 heures, j'avais l'impression que j'étais resté 5 minutes. Quoi.
D'accord.
Je sais que la dernière fois, il m'a dit « Oh putain, il ne reste plus que 5 minutes, on n'a pas eu le temps de parler de ça, de ça, de ça. Voilà. »
Une question, donc, isolé dans une seule cellule.
Oui.
Donc, d'accord. Oui.
Alors, en fait, à Lannemezan, c'est un endroit, je ne sais plus si c'est tout à fait le cas maintenant, mais où ils mettaient les politiques.
D'accord.
Donc, ils mettaient les Corses, ils mettaient les Basques, ils mettaient, voilà. Donc, il y avait un quartier général. Donc, y compris en prison, Georges, il a mené la bataille pour l'amélioration des conditions de vie des prisonniers. Par exemple, les parloirs avant, c'était une salle immense où il y avait tout le monde. Maintenant, c'est une toute petite pièce où on est seul avec lui. Voilà. C'est évidemment filmé, et, il y a des précautions, mais au moins il y a un peu d'intimité quand on veut parler. Et voilà quoi.
Ouais, les parloirs de l'époque, c'était donc de la cacophonie. Quoi. Tout le monde,
bien sûr.
Tout le monde criait, tout le monde essayait de dire quelque chose et personne n'entendait rien. C'est bien ça.
C'est ça. Non, là, c'est... Et puis, c'est donc c'est un moment où, enfin, moi, chaque fois que je suis allé le voir, c'est des moments de discussion sur toutes les choses du monde. Pas que sur la Palestine, évidemment, sur la Palestine, bien sûr. Mais pour la petite anecdote, je dirais que la dernière fois que je suis allé le voir, il m'avait demandé avant que je lui envoie un livre de Xi Jinping qui s'appelle « Sortir de la pauvreté » et un livre sur l'agriculture biologique en Chine. Un mec, ça fait 40 ans qu'il est en prison, il s'intéresse à l'agriculture biologique en Chine.
Il y a une agriculture. Hein.
Et donc, moi, je suis allé le voir, et avec lui, on a... Alors, évidemment, j'avais été obligé de lire les livres avant, puisque je lui avais envoyé, je savais qu'on en parlerait. Donc, on a parlé de l'agriculture biologique en Chine. Je me disais à moi-même, j'ai dit, putain, ce mec, ça fait 40 ans qu'il est en prison, il est... Pas un moment, il va dire, j'en ai marre, j'ai mal au doigt, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos, je supporte plus l'exil, rien. Alors, tu comprends, oui, la Chine, finalement, il faut bien étudier ce que c'est quand même. C'était... Et donc, on a discuté de la Chine pendant un long moment. Et ça, c'est assez fabuleux. Pour ça, je disais, moi, à mes collègues de l'ANC, c'est un homme du monde. Pas un homme du monde au sens de la bourgeoisie, mais un homme qui est dans le monde et qui s'intéresse au monde entier. Quoi.
Et en définitive, quelles sont les... Enfin, c'est pas des forces. Quelles sont les personnes qui refusent donc sa libération? Est-ce que tu peux m'aiguiller un peu?
Alors, il faut savoir que les États-Unis et Israël sont intervenus publiquement en disant il ne faut pas qu'ils soient libérés.
D'accord.
On a mis leur dire, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Voilà. Il faut dire que les États-Unis, qui ont le prisonnier politique le plus vieux du monde, hein, qui est Léonard Peltier, puis derrière Mumia Abu Jamal... C'est sûr que ce n'est pas eux qui vont nous donner les leçons de démocratie. Donc eux, ils sont intervenus. Et Israël aussi, évidemment, avec 10 000 prisonniers, dont plus de la moitié sans jugement. Voilà, on peut... Ce n'est pas des prisonniers, d'ailleurs, c'est des otages, on devrait dire. On parle toujours des otages du Hamas, mais on devrait parler des otages israéliens. Donc eux aussi sont intervenus, parce que cet homme est un danger. Mais ils ont raison, il est dangereux. Il est dangereux parce qu'il est intelligent, il réfléchit. Il est instruit et il gobe pas le discours dominant. Il est dangereux parce qu'il ouvre l'esprit des gens avec qui il parle. Il est dangereux parce qu'une fois libre, effectivement, ils vont se dire, putain, il va aller au Liban, les gens vont l'écouter encore plus fort que ce qu'il écoute aujourd'hui. Alors, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, il écrit et sa parole est diffusée. Mais évidemment, elle serait mieux diffusée s'il était à l'extérieur. Et ça... le capitalisme ne peut pas supporter ça et l'impérialisme encore moins. Quoi. Voilà.
Tu n'as rien à dire, non? Non, ça va, ça va. Rien de spécial. D'accord. Il est 14h18, nous allons mettre un peu de playlist. Merci les filles. Et nous reprenons l'émission d'ici 5 minutes à peu près.
Monétise nos traumas et nos chaînes. Tous ces hommes de pouvoir qui ont tout à prendre. Ils tremblent de peur quand la terre tremble. Amara, hey Amara, tu pries pour les caméras. On peut pas être camarades. Yo yo, Amara, hey Amara, je ne crois pas aux aléas. Le divan Himalaya, ya ya. Maintenant seul
pour
plus de repères qui l'expliquera à leur mère. Ils dessinent les terres et leurs chaînes. Ils décident d'être les maîtres de la scène. Tous ces hommes de pouvoir qui ont tout à prendre. Ils se rappellent du ciel quand la terre tremble. Maintenant, seul Baha.
Voilà, voilà, ben ça y est, nous y sommes. Voilà. Ben, 2h20, Charlotte, tu restes encore pour finir l'émission, tu pars avant, comment, qu'est-ce que tu fais?
Je suis à ta disposition. Juste ce que je voudrais dire quand même aux auditeurs et aux auditrices, parce que les gens peuvent se dire, mais qu'est-ce que moi je peux faire là où je suis? D'abord, vous pouvez aller sur le site Libérons Georges. Donc là où il y a toutes les infos, il y a sa vie en long, en large, en travers. On a aussi sur le site de l'ANC évidemment beaucoup de choses sur Georges, mais là où il y en a le plus, c'est sur le site Libérons Georges. Notamment là, il y a son adresse postale. Et ce que vous pouvez faire, n'importe quel auditeur ou auditrice, qu'il peut faire ou qu'elle peut faire, c'est lui écrire. Parce qu'il lit les lettres, il y répond, voilà, évidemment, c'est important, quoi. Ça, c'est un soutien certain. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est en parler autour de soi. Et si vous avez des élus qui viennent vous voir, puisqu'à ce moment, ils n'ont rien à faire, puisqu'il n'y a pas de gouvernement, donc il n'y a pas de loi. Ils ne siègent même pas. Puisqu'ils n'ont rien à faire, c'est le moment d'interpeller vos élus en disant « Oh, qu'est-ce que tu vas là, Nemezan? Qu'est-ce que tu prends position ?» Je ne veux pas dire de bêtises. Il n'y a aucun député des Bouches-du-Rhône qui n'est jamais venu à Nemezan pour le rencontrer ou pour les manifs demandant sa libération. Donc voilà, on a de la marge. Et c'est pas faute de les avoir interpellés, qu'ils soient de la force gauche ou de la vraie droite. Il y en a pas un qui est venu. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, quoi. On va nous faire un flan sur des droits de l'homme ailleurs, mais là... On est en France, là. C'est à Lannemezan, c'est à côté, quoi. En 4 heures de voiture, on y est, quoi. Il n'y a aucun député, aucun élu des Bouches-du-Rhône qui est allé le voir. La seule chose qu'il y a eu, à ma connaissance, c'est une lettre de Pierre Darville, l'ex-député PCF, qui a écrit au président de la République une fois. Mais en fait, c'est une lettre, c'est bien, mais
oui,
c'est loin de suffire. Et nous, je sais qu'on avait évidemment proposé que Georges soit citoyen d'honneur de plusieurs villes. Il n'y a aucune ville qui n'a voulu le faire. Alors que, dans le Pas-de-Calais, il y a une ville où Georges est citoyen d'honneur. Voilà. Au moins ça. Donc voilà, ce que peuvent faire les gens, et puis se préparer la prochaine manif à Lannemezan, malheureusement, voilà, je dis malheureusement, parce que chaque fois qu'on en fait une, on espère que c'est la dernière, mais vu comment les choses tournent, je pense que c'est la dernière qu'on a faite, ce n'était pas la dernière. Donc ce sera autour du 24 octobre à Lannemezan, ce sera à nouveau une manif nationale, et à nouveau en espérant qu'il y en ait énormément de monde, quoi.
Donc en définitive, ils veulent le conserver à tout prix jusqu'à son décès, quoi, voilà.
Oui, c'est même pas qu'ils obéissent à Washington et à Israël, c'est qu'ils ils obéissent à leur fort intérieur, ce qui est pour eux leur conviction, qui les fait rejoindre la demande d'Israël et de Washington.
D'accord. Et que, on reste dans le sujet. Salah Mouri, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que tu peux me donner quelques informations sur lui?
Il est ailleurs, j'ai ce Palestine, comme un certain nombre d'entre nous. Et, comparativement, il y a plus eu de mobilisation de la gauche pour Salah Hamouri que pour Georges, quoi. mais c'est incompréhensible parce que il y en a pour Marwan Barghouti qui est enfermé en Israël et c'est normal, mais il y en a plus pour Marwan Barghouti qui est en Israël que pour Georges qui est en France, quoi. C'est impressionnant. On dirait que c'est quelque chose, c'est un tabou, c'est que et en fait, mais on observe ça depuis le 7 octobre. Moi, ça me fait penser au sketch de Blanche Gardin, là. Je suis devenu antisémite depuis le 7 octobre. Bon, elle se moque, là. Mais il est clair qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures qui sont inacceptables, quoi. On laisse faire un génocide à Gaza. On laisse Israël se comporter, les colons se comporter comme des barbares en Cisjordanie. Moi, j'imagine une seule seconde Cuba faire le dixième de ce que fait Netanyahou, quoi. Mais il y aurait déjà toutes les armées du monde qui auraient pointé leurs canons sur l'île, quoi. Mais là, non. Là. Israël, il continue à faire. Et il est fourni en armes et par Thalès en France et par d'autres en Allemagne, etc., etc. Donc, on nous parle des terroristes du Hamas, mais là, le gouvernement français, vis-à-vis de Georges, il se comporte comme un gouvernement terroriste et comme un gouvernement qui n'a aucun sens des libertés. Et concernant ce qui se passe en Cisjordanie et à Gaza, ben les terroristes, c'est bien Israël aujourd'hui. Et ça, si vous le dites sur Facebook, votre compte est supprimé. Voilà.
Et comment s'appelle, tu m'avais dit ?
Blanche Gardin, tu veux dire ?
Non, le type en question, Barghouti.
Marwan Barghouti.
Oui, il est de quel...
Mais lui, c'était un gars
Il est de quel bourg ?
C'est le Fatah. Je ne sais pas si on peut comparer avec la France, mais on dirait que c'est plus... si on comparait avec la France, ce serait le Parti Socialiste. Alors que... D'accord. Que Georges, c'est plutôt l'extrême gauche, quoi. Les communistes convaincus. Donc, est-ce que c'est ça qui explique tout ? Je pense que ça n'explique qu'une partie, ça n'explique pas tout. Moi, je pense qu'il y a quand même du mal à ce que ce qui s'appelle la gauche française critique son propre gouvernement sur son impérialisme et sur sa façon de faire. Quand Macron, il va au Liban, il leur dit « Taisez-vous, voilà ce que vous devez faire, voilà le gouvernement qu'il faut », mais il mériterait deux claques, là. Je serais dans l'opposition, je rigolais comme un barjo. Ça a provoqué des réactions, mais pas très violentes, quoi. Après, il ne faut pas s'étonner que nous, dès qu'il y a une révolte en Kanaky, eh bien, on y va à fond les manettes et on se sent tranquille pour y aller, puisque de toute façon, l'opposition ne sera pas violente, ne sera pas virulente et elle ne va pas gagner des voix contre nous, quoi.
D'accord.
C'est pas vendeur, Georges. C'est pas un sujet vendeur. Donc, ils s'en foutent.
Hein. Ouais, il a quand même une sacrée culture. Hein.
Oui, mais c'est comme on a un gouvernement d'incultes, c'est pas la culture qui va les intéresser. Et le problème, voilà, c'est que vraiment, sur cette question de Georges, il faudrait vraiment qu'il y ait un sursaut national. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur la Palestine, sur le génocide, et il n'y en a pas pour Georges Abdallah, c'est un peu la même chose.
Ouais. Désintéressement total, ou alors on pense que ça n'a pas d'importance, quelque chose comme ça, quoi.
Mais c'est le racisme, à la fois systémique et à la fois le racisme courant conventionnel. C'est des Arabes, ben ça va, quoi. Ben ça va, ils ont tué. Il y a des milliers d'enfants qui sont morts à... Bon, c'est des Arabes, quand même. C'est un peu loin, quoi. Ici, il y a une petite, malheureusement, qui se fait tuer dans une forêt, là. Et pendant une semaine, tous les médias en parlent. Et c'est normal qu'ils en parlent. Mais il y en a une, quoi. Les milliers de morts de Gaza, on n'en parle pas. Voilà.
Oui.
Il y a vraiment un deux poids, deux mesures qui est inacceptable. Et sur Georges, il y a en plus le fait qu'il n'a jamais voulu renier son combat. Comme d'ailleurs Mandela, hein, une fois cet imbécile de Macron, il avait dit « il faut qu'il signe ». Il signe quoi ? Il faudrait qu'il signe « oui, j'ai été méchant, j'aurais pas dû soutenir la cause palestinienne ». Mais jamais il signera ça, lui. Voilà. Il va dire « oui, j'ai bien fait de me battre pour les Palestiniens ».
Nelson Mandela, il n'a jamais signé. Hein.
Ben, bien sûr. Et il n'a jamais renié la lutte armée, en plus.
En plus, ouais.
Voilà. Donc,
il n'a jamais apposé sa signature quelque part.
Mais,
jamais,
bien sûr. Mais,
monsieur, je me suis un peu penché sur sa biographie. Il n'a jamais, jamais, mais jamais...
Voilà, donc on voudrait le casser, Georges. Ils ne le casseront pas. Ils ne le casseront pas parce que c'est un homme de trop grande conviction, de trop grande sincérité et de trop grande culture, comme tu dis, pour qu'ils arrivent à le casser. Quoi.
Donc les marches, enfin, marches, manifestations pour la Palestine, ça a lieu donc tous les dimanches, ça on le sait. Le mouvement de ne cesse que grandir, hein, faut pas croire. Hein. Bon, ils s'atteignent un peu peut-être au niveau participant, mais ils sont là, ils sont toujours là, ils sont toujours présents.
Il hein. y a ça, et puis on voit Marseille, mais samedi, il y a le bateau pour Gaza qui arrive à Martigues. Il y a dans la plus petite ville, moi je suis là, j'étais le week-end dernier, j'étais à Gap. À Gap, tous les samedis matin, il y a manif. À Briançon, tous les samedis matin, il y a manif pour la Palestine. Donc il y a un mouvement qui est profond, le pays profond, il accepte pas ce qui se passe. Voilà, ce qu'il faudrait, c'est que nos organisations soient de gauche, dites de gauche, soient un peu plus prenantes quand elles ne sont pas opposées. Si on voit la mairie de Marseille qui continue son jumelage avec Haïfa et qui continue à ne pas donner les sous à Léon Bois parce que c'est accusé d'être des terroristes alors que c'est l'agence des Nations Unies, voilà, et c'est, on a des gens dits de gauche qui ont choisi leur camp, quoi.
Je savais qu'il y avait un bateau qui devait arriver, mais j'ignorais son date.
C'est samedi à Martigues.
C'est samedi à Martigues. Il compte venir jusqu'à Marseille, hein, je ne sais pas, peut-être.
Pas que je sache, pour le moment, c'est
Martigues. Pour l'instant, c'est Martigues, hein. D'accord. Quoi qu'avec la municipalité qu'on a.
Non,
je ne pense pas.
Ils sont plus proches de Netanyahou que...
Ouais.
Que de Salah Hamouri.
D'accord. Voilà. Bon. 2h20, il est encore une demi-heure d'antenne. Un sujet, Charles, qui te préoccupe encore, hein?
Mais tu sais, dans la situation aussi, c'est que moi, je trouve que l'histoire de Georges, elle est significative de la façon dont l'Occident se situe dans l'équilibre du monde. En fait, on est un pays qui a d'abord connu les croisades, puisqu'il fallait convaincre les musulmans que Jésus-Christ c'était bien et que Mahomet c'était mal. Donc pour les convaincre, on y est allé à la pointe de l'épée. Nous, on est allé faire les croisades. Les Espagnols, ils sont allés massacrer 90% des Indiens en Amérique du Sud. Puis, on est un pays, quand on a eu... On s'est bien développé grâce à l'esclavage. Donc ça aussi, ça a permis pendant... 500 ans vraiment d'asseoir les richesses de la France, entre autres. Hein. Pas seule, mais elle fait partie du peloton de tête des esclavagistes. Et puis quand de l'esclavage, ça devenait un peu mauvais genre, puis que les esclaves, ils revenaient chers, et puis qu'en plus, ces cons, ils s'étaient révoltés à Haïti, qu'ils avaient foutu par terre l'armée de Napoléon, ça commençait à devenir dangereux. Donc après, on a fait la colonisation. Et en avant, Guingamp, à partir de 1830, de l'Algérie, on est parti... coloniser le reste de l'Afrique. Donc on a toujours eu, dans notre histoire, dans notre patrimoine culturel, ce sentiment que l'Occident devait dominer le monde et que les Noirs et les Arabes, eh bien, peut-être qu'ils avaient un cerveau, c'était pas sûr, mais en tout cas, ils étaient inférieurs à nous. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le reste du monde n'accepte plus cette domination de l'Occident. Alors ça se voit en Palestine, ça se voit à Cuba, ça se voit en Corée, ça se voit dans plusieurs endroits du monde. Et ça, l'Occident, il est un peu le dos au mur. Et c'est pour ça qu'il est prêt à nous entraîner dans une troisième guerre mondiale pour arriver à asseoir sa domination. Et il veut l'asseoir au Moyen-Orient, il veut l'asseoir en Ukraine et en Russie, il veut l'asseoir en Asie et il veut l'asseoir en Amérique du Sud. C'est... au fond, Georges, tout Georges qu'il est, tout seul bonhomme, là, il est au cœur de ces contradictions-là. C'est-à-dire la fin de l'hégémonisme occidental et le début d'un monde multipolaire où chaque nation elle peut se faire entendre à égalité de droits et de devoirs. C'est ça que ces gouvernements, au fond, ils refusent. Georges, il n'est pas gênant parce que à lui tout seul, il ne va pas lever une armée. En plus, il ne veut pas lever d'armée. Voilà, c'est... Il est gênant parce qu'il est le symbole d'une lutte contre la domination sans partage de quelques pays qui se sont arrosés le droit d'être les maîtres du monde.
C'est pour ça qu'il le garde, quoi.
Ben oui. C'est pour ça qu'il le garde. C'est pour ça que toutes les à longueur d'antenne, ils nous disent le méchant Poutine. Bon, c'est, Poutine, c'est pas mon ami, c'est pas du tout mon bord politique, mais il faut bien reconnaître que là, on n'a pas une guerre Russie-Ukraine, on a une guerre OTAN-Russie, avec l'OTAN qui veut redécouper la Russie en quatre pays. Et voilà, quoi. Parce que c'est une puissance économique potentielle qui menace l'hégémonisme des USA. Et c'est pareil pour la Chine. La Chine, c'est des méchants Xi Jinping, mais c'est parce que tout simplement, il n'est pas plus méchant qu'autre chose. Mais sa puissance économique, c'est sa puissance de frappe en dollars, elle le rend dangereux pour le capitalisme international. Donc il faut absolument l'attaquer et le réduire en néant. Et voilà. Et la Palestine, eh bien, au milieu de tout ça, elle est le verrou. Il faut se rappeler le mot de Palmerston, hein, 1830. Ce n'est pas aujourd'hui, 1830, un ministre anglais qui disait on ne peut pas laisser, à l'époque c'était l'Empire ottoman, ce territoire-là aux mains des Arabes. Il faut qu'on s'ouvre la voie du commerce vers les Indes, avec notamment le canal de Suez qui sera construit en 1860. Donc c'est vraiment cette question du développement du capitalisme international, de l'impérialisme du coup que ça suppose pour les pays qui ne veulent pas s'y soumettre. Et comme la colonisation aujourd'hui, ça fait mauvais genre qu'on ne peut plus la faire et que les peuples sont quand même malgré tout un peu libérés, eh bien on impose d'autres moyens. Et il faut rappeler que la France, elle est en train de se faire virer de quelques pays, et c'est tant mieux. Mais il y a quand même 30 000 soldats français en Afrique, quoi. 30 000, c'est énorme, hein, voilà.
Alors qu'on avait dit plus de soldats en Afrique.
Eh oui. Comme ça, c'est nous qui l'avons dit, c'est pas le gouvernement qui
l'a dit. C'est bien que c'est vous qui l'avez dit. Plus de soldats en Afrique.
Voilà.
Actuellement, quels sont les pays d'Afrique? Est-ce que tu peux me dire quels sont les pays d'Afrique occupés par l'armée française? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Enfin, si tu as une idée là-dessus, je ne sais pas.
J'ai une petite idée.
Vas-y, alors.
Il y a les 14 pays de l'Afrique de l'Ouest, sauf le Niger, le Mali, le Sénégal et maintenant le Burkina Faso, parce qu'il y a des accords qui se créent de ces pays qui rejettent non seulement l'armée française, mais l'armée américaine aussi.
Tout le monde au balai, quoi.
Voilà, ouais. Alors, ils les rejettent. Et vous voyez, quand on parle de la Chine, de la Russie, qui sont méchants, que la France, elle est gentille, nous, on défend la liberté, les autres, c'est des méchants. La Chine, par exemple, elle n'a aucune base militaire dans le monde, hors de son territoire. Voilà. C'est tout simple. Je ne me rappelle plus le nombre qu'en ont les États-Unis. Je parlais de 30 000 soldats français. On parle des fondations allemandes, on parle de tout ce qui est logistique, impérialiste en Afrique. C'est énorme, quoi. Voilà. Mais c'est pas ça, on n'en parle pas. Par contre, on va dire que la Chine, elle fait ceci. Alors, elle ne fait pas tout bien, loin de là, en Afrique. Mais objectivement, elle n'a pas de base militaire. La Russie non plus. Voilà. Donc, si on doit donner des leçons, il faut déjà balayer devant notre porte, quoi. Déjà, retirons nos soldats. Arrêtons de piller l'Afrique, arrêtons que Total, elle pille le Sahara, et puis après, on pourra discuter. Et sur ce point-là, d'ailleurs, on aurait beaucoup intérêt à écouter ce que disent les Africains et les Arabes de leur situation. Là, sur le site de l'ONC, il y a quelques jours, on a fait paraître une déclaration de Marina Sidebs, là, qui est une dirigeante du Parti communiste libanais. Voilà, moi, je conseille à vos auditeurs d'aller la lire, quoi. Elle parle d'Israël, de Palestine. C'est le point de vue des Arabes. Évidemment, ce n'est pas celui de Macron ou de Bernard-Henri Lévy. Mais voilà, c'est le point de vue des progressistes arabes. Et d'ailleurs, nous, on est tellement convaincus de ça qu'il faut donner la parole aux gens et écouter et pas s'opposer à donner de leçons des 30 pays qui veulent dominer le monde, comme l'aurait dit Chavez. C'est que moi, au fin octobre, là, il y a une nouvelle conférence internationale de notre plateforme mondiale anti-impérialiste, là. Donc il y en a eu une à Caracas, une à Belgrade, une à Séoul. Là, la prochaine, c'est à Dakar, au Sénégal. Et celle d'après, dès qu'on peut, ce sera à Beyrouth, au Liban.
D'accord. Dakar, le Liban, et après, bien après, d'accord. Je reviens un peu sur la Palestine. Je me suis pas juste un peu sur l'histoire de la Palestine. Bon, j'ai pas. Mais la Palestine n'a pas toujours été comme palestinienne, si je ne fais pas erreur.
Mais la Palestine, ça a toujours été un territoire qui a été sous domination des puissances dominantes. Donc, c'était l'Empire ottoman.
Oui.
Alors, les Ottomans, contrairement aux Français d'ailleurs, que ce soit en Algérie ou en Palestine, c'est toute la différence entre la France, les Anglais d'un côté et les Ottomans de l'autre. Les Ottomans, ils envahissaient un pays, je ne dis pas que c'était bien. Eux, ils voulaient faire du commerce, ils installaient leur comptoir. Les gens, ils parlaient la langue qu'ils voulaient. Au fond, il y avait une certaine autonomie, si on peut dire. L'Empire était ottoman, mais il y avait une certaine autonomie. Quand les Français sont arrivés, alors le cas d'Algérie, il est symptomatique. Les Français sont arrivés, ils ont dit, allez, tout le monde va parler français maintenant. C'est comme ça que les Kabyles ont dit, mais non, on parle pas français, on parle pas arabe, on parle Kabyle, qu'est-ce que vous nous emmerdez? Et c'est de là, d'ailleurs, que le mouvement autonomiste Kabyle, il est né de l'occupation française. Parce qu'il y a toujours ce sentiment de supériorité. Nous, les Blancs, on va vous expliquer. On va vous expliquer ce qu'il faut penser, ce que c'est la démocratie, etc. On a complètement nié toute la richesse des peuples qu'il y avait. Et si on prend la Palestine, ben, il y avait un peuple qui vivait. Dedans, il y avait des gens qui étaient chrétiens, d'autres qui étaient juifs, d'autres qui étaient musulmans, qui élevaient leur chair. Il n'y avait pas d'armée. Et c'était une province de l'Empire ottoman. Et c'est les Anglais qui ont voulu créer un foyer national juif parce que en Europe, on avait ce problème de l'antisémitisme qui était fort, qui était fort pour, à la fois pour des raisons religieuses, à la fois pour des raisons de racisme à la con, quoi. Les Juifs, c'était ceux qui avaient tué Jésus-Christ, et puis après, c'était eux qui prenaient, un peu comme aujourd'hui on dit pour les immigrés, hein, c'est eux qui prenaient le travail des Européens. Et donc, ils avaient droit qu'à certains métiers. C'est comme ça que Karl Marx a changé de religion parce qu'il était juif, mais s'il restait juif, il y avait des professions auxquelles il n'avait pas accès. Donc, face à cet antisémitisme, c'est Palmerston qui a eu l'idée de se dire, mais pétard, on ne va pas s'emmerder avec les juifs en Europe, on a qu'à créer un foyer national juif en Palestine, et ça nous ouvrira la route du commerce des Indes, et ça permettra que ce ne soit pas les Arabes qui la maîtrisent. Au fond, la création de l'État d'Israël, c'est une démarche profondément raciste et profondément antisémite. Et le sionisme, il est né. C'est vraiment la réponse inverse de ce qu'il fallait donner à l'antisémitisme. Au lieu de parler en termes d'égalité de droit, de l'absence de discrimination, on a fait avec le sionisme une théorie qui est la discrimination à l'état systémique, quoi. D'ailleurs, on a dans la constitution d'Israël, même dans les syndicats d'Israël, on défend les juifs. C'est-à-dire que donc on est vraiment en pleine théocratie. Or, les mêmes qui gueulent après l'Arabie saoudite, à juste titre, ou la République islamique de Mauritanie, ils disent rien contre Israël, qui est un État sioniste qui applique avec la religion juive ce que d'autres appliquent avec la religion musulmane dans leur pays. Moi, je suis contre les théocraties, qu'elles soient musulmanes, catholiques ou juives, hein, ou bouddhistes, comme c'est le cas en Inde, dans certains endroits. Voilà. Et il faut combattre pour l'universalité et pour le refus des discriminations, point. De ce point de vue, Israël n'aurait jamais dû exister. D'accord. Et aujourd'hui, quand on voit, je ne sais pas ce que diront les Palestiniens au final, parce qu'il y a eu passé un temps les accords d'Oslo, certains ont cru à la solution à deux États. Je laisse les Palestiniens régler cette question, mais je vous avoue que j'ai du mal à penser qu'on puisse avoir deux États, un juif et un musulman, parce que c'est ça que ça voudrait dire, côte à côte, avec les haines qu'il y a. Alors que ce qui me semble beaucoup plus plausible, c'est d'arriver à ce qu'il y ait un État où les gens, quelle que soit la religion, ils vivent comme il y a d'autres pays. Alors, pour les musulmans, c'est de moins en moins vrai en France. Hein. Mais en fait, jusqu'à présent, on pouvait être musulman et français, ça ne posait pas de problème. Là, maintenant, ça commence
Par rapport à la double nationalité, quoi, c'est ça?
Mais la double nationalité, c'est encore autre chose, parce que je peux être congolais catholique et avoir la double nationalité. Hein.
Oui.
On a vraiment des lois qui ont été faites contre la religion musulmane, qui par contre, renforcent le repli sur soi. Moi, je comprends un homme ou une femme qui est musulman ou musulmane qui se dit, oh pétard, ils me rejettent tous, les blancs, donc je me retrouve entre musulmans. Et c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Si on veut qu'il n'y ait pas de racisme et pas de discrimination, pas d'islamophobie, il faut accepter l'universalité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je parle de Blanche Gardin qui disait très justement dans son sketch, tu as le droit d'être islamophobe, et bien tu n'as pas le droit d'être antisémite. Mais en fait, on a le droit d'être ni l'un ni l'autre. C'est ça qu'il faut rappeler.
Et actuellement, quel est le pourcentage qui reste donc de la bande de Gaza?
Personne ne le sait. Je crois que même pas les Gazaouis le savent.
D'accord.
C'est que il y a des chiffres tellement contradictoires que je ne veux pas les donner.
D'accord.
Mais il semble bien qu'on a dépassé les 100 000 morts et que voilà, et c'est vraiment un génocide, quoi.
D'accord.
Parce qu'après, il y a le génocide par les armes, il y a le génocide par la faim et par le refus des soins. Il n'y a plus d'hôpital à Gaza. Maintenant, quelqu'un qui a un cancer en Palestine, il est condamné, hein, parce qu'il ne pourra pas avoir l'autorisation d'aller se soigner en Égypte ou ailleurs, quoi.
Bien. Merci Charles pour toutes ces explications. Normalement, nous rendons l'antenne à 15h. Or, d'après ce que j'ai appris avant de commencer, il y aura une émission qui devrait commencer donc à 14h, c'est ça? À quelle heure, hein? Ou alors quelque chose, hein?
À 15h?
À 15h, oui. C'est ce qu'elle m'a rapporté bien avant de faire l'émission. Bon, de toute façon, nous allons rendre l'antenne. Hein. Merci Charles, merci de ta participation à l'émission. Merci la régie, merci les filles.
Merci ça à va? L'équipe.
C'est parfait, c'est bon, ça vous va? Nickel. Merci à toi aussi, hein, voilà. Et à très bientôt donc sur à la radio. Avant-dernière émission de l'année, dernière émission... le dernier mercredi donc de ce mois, et après c'est les congés. Et nous reprendrons donc en septembre. Voilà. Et vous pouvez lancer le générique si vous désirez. Au revoir.
Prendre sa bode, cas où qu'elle souvenance, un trop de marandelle, une pierre, un dernier coup, la porte de sa maison, une sa niconie du pays. Et traversa le demain tout inter, vers un brassard l'avenir. Zati, le brave Viad, tentat sous vous chiao migratou dans le monde des louons. Que sériou venez des voula per des soubres et des louclaou, per un semensa leichi du tampao dans la commaï, plus lieu que de se trapa la zale d'une lotial ou de l'odouane.